Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Nous vous proposons ce jour la 13e et dernière émission de notre série consacrée au parcours de Roger Pestoury à partir des 12 entretiens réalisés au fil de cette année. La première plage musicale que vous allez entendre après cette présentation est un morceau inédit que Jean-François Rémy a bien voulu réaliser pour Radio Canu, l'émission Bistantlac. Il s'agit d'un poème de Louis Aragon qu'il a mis en musique et qu'il interprète, un poème extrait du livre Elsa. Un homme passe sous la fenêtre et chante.
Nous étions faits pour être libres. Nous étions faits pour être heureux. Comme la vitre pour le givre, et les vêpres pour les aveux. Comme la grive pour être ivre, et le printemps pour être amoureux. Nous étions faits pour être libres, nous étions faits pour être heureux. Toi qui avais des bras, des rêves, le sang rapide et soleilleux. Au joli moi des primes verts, où pleurer même est merveilleux. Tu courais des chansons aux lèvres, aimer du diable et du bon Dieu. Toi qui avais des bras, des rêves, le sang rapide et soleilleux. Ma folle, ma belle, ma douce, qui avait la beauté du feu. La douceur de l'eau dans ta bouche, de l'or pour rien dans tes cheveux. Qu'as-tu fait de ta bouche rouge? Des baisers pour le jour qu'il pleut. Ma folle, ma belle, ma douce, qui avait la beauté du feu. Le temps qui passe, 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 avec sa corde fait des nœuds. Autour de ceux-là qui s'embrassent, sans le voir tourner autour d'eux. Ils marquent leur front d'un sarcasme, il éteint leurs yeux lumineux. Le temps qui passe, 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 avec sa corde fait des nœuds. On a tiré de sa jeunesse que ce qu'on peut, et c'est bien peu. Si c'est ma faute, eh bien, on laisse ma mise à celui qui dit mieux. Mais pourquoi faut-il qu'on s'y blesse? qui donc a tué l'oiseau bleu? On a tiré de sa jeunesse que ce qu'on peut et c'est bien peu. Nous étions faits pour être libres. Nous étions faits pour être heureux. Le monde l'est lui pour y vivre. Et tout le reste est de l'hébreu. Vos lois, vos règles et vos bibles, et la charrue avant les bœufs. Nous étions faits pour être libres, nous étions faits pour être heureux.
Roger Bestoury, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 12e et dernier entretien de cette série. Pour celui-ci, le thème que vous avez retenu est « Les miens ». Une manière, j'imagine, de rendre hommage à ceux de votre vie qui vous sont le plus chers. Je vous donne la parole.
Oui, j'ai choisi ce thème que j'ai appelé « Les miens ». Et je préciserai que je suis très exigeant là-dessus, parce que ce qui reste dans ma mémoire de ces hommes, de ces femmes qui ont beaucoup compté dans ma vie, dans mon parcours, dans ce que je suis tout simplement, chez moi, il y a ce besoin pour aimer l'autre, d'être aimé. De savoir que en face de moi, il y a la confiance, il y a les sentiments, il y a l'affection et peut-être bien ce qu'on peut appeler tout simplement l'amour. Mon exigence, je pense qu'elle s'est cristallisée durant les années de la résistance, parce qu'à ce moment-là, la confiance que nous apportions aux camarades, c'était la certitude que si l'un ou l'une ou l'autre était arrêté, il ne parlerait pas. C'était cela. C'était cela, ce regard que nous croisions. C'était cela, cette confiance que nous avions, cette confiance réciproque. Et à partir de là, évidemment, se produisait cet affectif et ces sentiments profonds qui restent au fond de la mémoire. Les miens, je suis marqué, par exemple, aujourd'hui, quand on vient de m'apprendre que mon ami Pierrot Delhomme est décédé cette nuit à 83 ans, je peux considérer qu'il faisait partie des miens, parce que c'est un personnage qui a beaucoup fait ici à Bron. Il était le dirigeant de notre parti pendant plusieurs années, et j'associe à son nom ceux de Gaston Morin, de Montmessin, de Édouard Desmans, de Huguette Fournier, de Monique Perrellon, toutes des figures, des visages qui ont marqué cette histoire de Bron et qui ont marqué peut-être aussi profondément ce que je suis, mes disponibilités pour aller et mener le combat que nous menons collectivement. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et ce qu'il y a aussi à remarquer, c'est que je suis très fier de la récompense qui m'est apportée. Par exemple, quand je suis dans le tramway, on m'interpelle, on me frappe à l'épaule et on me dit « Monsieur Bestoury, il se rappelle, les choses se sont passées peut-être il y a 20, il y a 30 ans, il y a 40 ans, au moment où j'étais directeur de la Sécurité sociale ou adjoint au maire de Bron. » Et ces gens, la mémoire a fait disparaître ce que j'ai pu faire pour eux, mais eux se rappellent. Le moindre service que l'on rend à quelqu'un, eh bien, c'est quelque chose qui reste. Et ça, j'en tire un enseignement qui m'est précieux aujourd'hui, parce que ça accroît ma motivation du combat que je mène et de l'existence que je poursuis à 87 ans. Par exemple, la semaine dernière, il y avait un hommage qui m'était rendu, qui m'a beaucoup touché. C'est l'année où on m'a remis ma 70e carte du Parti communiste français. Et à cette occasion, la Fédération du Rhône, la direction du Rhône du Parti communiste, a décidé de marquer l'événement. Il y a eu une réception, il y a eu mon discours où j'ai parlé longuement de Guy Môquet et il y a eu tous ces camarades qui étaient autour de moi, qui me manifestaient leur estime et leur affection. Eh bien, ça fait partie de ce paysage qui est le mien et qui m'est indispensable. Voilà un peu le préambule de ce que je voulais dire pour bien signifier ce que le mien veut dire et ce que ça veut exprimer dans les sentiments, le besoin qui est le mien de parler de ces choses-là.
J'ai le cœur tout drôle de vous revoir là. Les années se frôlent car nous revoilà. Comme si rien n'avait changé, je vous aime toujours pareil. Vite à boire, vite à manger, rien n'a bougé sous le soleil. Comme dans nos pioles où il faisait froid, qu'on verse la gnôle, qu'on brûle le bois, tant qu'on aura du cœur au ventre et les yeux en face des taux, fera bon se retrouver entre nous. J'ai le cœur tout chose, il craque des mois. Le passé repose aujourd'hui chez moi. Levons nos verres à la santé de nos joyeuses retrouvailles. Il faut danser, il faut chanter autour d'une flambée de paille. Je pleure sans cause et ris à la fois. Le présent s'arrose avec l'autrefois. On avait tant de cœur au ventre et les yeux plus grands que les taux. Faisait bon se retrouver entre nous. J'ai le cœur tout gauche, les mots maladroits. Madame la fauche me remplit d'effroi. Il n'est pas temps de se quitter. Les braises sont rouges, vermeilles. J'ai encore du vin à goûter. Toujours leur avance au réveil. Tout le monde ébauche un baiser d'adieu. Demain nous embauche. À bientôt mon vieux. Tant qu'on aura du cœur au ventre et les yeux presque dans les trous, fera bon se retrouver entre nous.
Bien sûr, les miens, ça remonte très loin. Ça remonte très loin dans ma jeunesse, dans mon enfance. Ce papa que j'aimais, il est décédé en 1927, j'avais 7 ans. Et évidemment, il a fallu désigner un tuteur. Et ce tuteur, c'était le frère de mon père. C'était mon oncle. Et ce personnage m'a beaucoup marqué parce que il remplaçait pas mon père, mais il m'apportait une telle affection, une telle présence, une telle responsabilité que j'en ai gardé la mémoire et la reconnaissance. Parce que ça m'a fabriqué. Ça a fabriqué le jeune garçon que j'étais. Ça m'a instruit sur ce qu'était un homme, en définitive. Et l'oncle, mon tuteur, il était là, il venait à la maison, il passait pas de semaine sans qu'il soit présent, mais sans jamais s'imposer, surtout auprès de ma maman. Et il était très bricoleur. Je me souviens qu'il a fait l'escalier Il n'y avait qu'une échelle pour aller au grenier. Lui, il a fabriqué un escalier. Et je me souviens surtout du vélo. Le vélo, en 1940, lorsque il y a eu l'occupation, lorsqu'il y a eu la défaite, lorsque nous avons reçu l'armée en déroute là-bas dans nos départements, nous avons récupéré tout ce que nous avons pu d'armes et tout, qui ont servi ensuite à la résistance. Et entre autres, il y avait un vélo. C'est ce vélo que j'ai appelé le vélo de mes randonnées dans un livre. Et ce vélo, il avait la couleur de l'armée. Et je ne pouvais pas rouler sur ce vélo avec ces couleurs de l'armée, parce que la révélation aurait été faite qu'il avait été volé. Et c'est l'oncle qui m'a peint ce vélo. Et lorsque il m'a fait confiance, c'est-à-dire qu'il m'a peint ce vélo, il a fait ce travail, et il sentait, savait bien au fond du cœur, que au fond de lui-même, que ce vélo, si je l'avais, et si je roulais avec, il y avait des conditions particulières qui faisaient que j'en étais le propriétaire.
Où donc est passé le vélo qui roupillait devant la porte? Il servait d'enseigne au bistrot, de chien de garde ou bien d'escorte. Un jour Dédé complètement rond voyait tous les gens à l'envers. Il a pris un flic pour sa mère, son ange lui fila un marron. Où est passé le grand Ursule? Son chapeau et ses gants beurre frais sonnèrent de vivre pour de vrai, ses grandes manières de crapule. Il a suivi la grande idée qui désintoxique et repose. Il est parti soigner les roses, a pris un flingue et s'est tiré. Où est passée la grosse Marie qui, à la fête de la Sainte Vierge, faisait brûler pour 1000 balles de cierge et jouait ses charmes à la loterie? Elle est partie sur la grande ourse, avait toujours de drôles d'idées. L'hiver, ça lui flanquait la frousse, elle a rejoint le petit Dédé. Où donc est passé Mohamed, ses cacahuètes, ses noix de coco? Lui qui parlait tant de son bled, l'a dû y retourner en vélo. Ils se sont tous donné le mot, les v'là partis, tous nos amis. Tous d'un seul coup, c'est beaucoup trop, ça fait comme un trou dans Paris.
Voilà cet oncle qui a eu ce drame. Il avait un fils, Bébert, c'était mon cousin, un personnage qui avait la douceur, la manière plaisante, toujours le sourire. Et il a été mobilisé, il a été fait prisonnier, il est retourné d'Allemagne au bout de 5 ans, et il est rentré chez lui, il était fiancé, et sa fiancée l'avait pas attendu. Il s'est marié, et puis notre Bébert n'était plus le même. Et un jour, il s'est suicidé, il s'est noyé là-bas. Il y avait un lac à côté de la maison, il a été se noyer dans ce lac. Et on m'a prévenu, ici à Lyon, bien sûr, nous sommes allés là-bas, il y avait l'oncle, mon tuteur, cet homme en souffrance, cet homme qui s'était levé pour assister aux obsèques de son fils. Et il y a eu les obsèques, et 3 jours après, l'oncle est tombé devant la cour, raide mort.
Au mois d'août, en fauchant les blés, on crevait de soif dans la plaine, le corps en feu, je suis allé boire à plat ventre à la fontaine. L'eau froide m'a glacé les sangs, et je meurs par ce tendre automne où l'on danse devant la tonne durant les beaux jours finissants. Je j'entends les violons, Marie. Va, petitote, que j'aimais bien. Moi, j'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la frérie. J'entends les violons, Marie. Veux-tu bien me sécher ces pleurs? Les pleurs, on les dit, ce les belles. Mets ton joli bonnet à fleurs et ton devantier en dentelle. Rejoins les jeunesses du bourg, au bourg où l'amour les enivre. Car si je meurs, il te faut vivre, et l'on ne vit pas sans amour. J'entends les violons, Marie. Va, petitote, que j'aimais bien, moi. J'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la frérie. J'entends les violons, Marie. Entre dans la danse gaiement, choisis un beau gars dans la ronde et donne-lui ton cœur aimant qui resterait seul en ce monde. Oui, j'étais jaloux cet été quand un autre t'avait suivi, mais on ne comprend bien la vie que sur le point de la quitter. J'entends les violons, Marie. Va, petitote, que j'aimais bien, moi. J'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la frérie. J'entends les violons, Marie. Après ça, tu te marieras. Et quand la moisson sera haute, avec ton homme aux rudes bras, moissonnant un jour côte à côte, vous viendrez peut-être à parler, ému de pitié grave et sobre, de gens qui moururent en octobre d'un mal pris en fauchant les blés. J'entends les violons, Marie. Va, petitote, que j'aimais bien. Moi, j'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la frérie. J'entends les violons, Marie.
Voilà, voilà un peu les blessures, voilà un peu la guerre, ce que ça apporte et les enseignements qu'on peut en tirer. Voilà un peu cette image évidemment assez sinistre que ma jeunesse, qui a atténué la douleur qui était la mienne par la perte du papa. Il s'est pas substitué au papa, mais tout de même, lorsque on vous aime, lorsqu'il y a l'affection, lorsque vous avez 7 ans, c'est quelque chose qui est impérissable au fond de votre mémoire. Voilà un peu une image que je voulais donner de ce que j'appelle les miens. Puis, pour parler de la résistance, il y a une figure qui me revient souvent dans mes discours, dans mes conférences, c'est celle d'Édouard Laval. Édouard Laval qui habitait à une localité qu'on appelait Le Pigeon. Et c'est chez lui. C'est chez lui qu'on a pratiquement construit le Parti communiste français dans le département du Lot, au moment où il était interdit, au moment où il fallait aller frapper aux portes des camarades. Et Édouard Laval, c'est chez lui que j'allais, c'était à 15 kilomètres de chez moi, je partais en bicyclette, je me rappelle, je traversais la Nationale 20, j'avais une certaine frayeur parce que on ne tenait pas dans les conditions de la clandestinité où nous étions, qui est des voisinages dangereux, et j'arrivais chez Édouard Laval. J'arrivais là-bas, c'était ma seconde famille. J'étais accueilli, j'allais toujours là-bas assez tôt pour dîner en famille avec Laval, Madame Laval. C'était la tendresse, c'était quelque chose de très profond. C'était un homme qui me rappelait un peu mon père, parce qu'il avait été blessé de guerre, il avait fait la guerre de 14-18, il était gravement, grièvement blessé de guerre. Là-bas, il y avait des réunions clandestines. Il accueillait les camarades, il accueillait Chervet, qui est ici de Lyon. Il était du Beaujolais et il était désigné comme instructeur du Parti communiste. Il représentait chez nous la direction nationale du Parti communiste. Et Chervet était accueilli chez Édouard Laval. Il couchait là-bas et il repartait. Et là, on discutait. Et là, on regroupait les camarades, Brunori, tous ceux qui ont été à l'origine de la construction du Parti communiste dans le Lot. Et c'est Édouard Laval, lorsque je suis parti, lorsque je suis arrivé à Lyon, lorsque j'ai été condamné à 5 ans de travaux forcés, il était de l'équipe de ce procès. Et Édouard Laval a été condamné à 3 ou 4 ans de travaux forcés, en même temps que moi, en même temps que mes 4 autres camarades. Et cet homme, ancien combattant, grièvement blessé de guerre, a été interné. Il a été interné plusieurs années, et c'est les maquisards qui l'ont sauvé, qui l'ont fait sortir de son lieu d'internement quelques semaines avant la libération. Voilà un peu des images qui me restent. Voilà un peu ce témoignage vivant et perpétuel qui échelonne le parcours qui a été le mien. Et c'est des choses qui aujourd'hui créent une sorte de fond de toile dans mes souvenirs, dans mon besoin d'exprimer ces choses et d'avoir les miens, d'avoir ces gens autour de moi, auprès de moi, même s'ils sont partis.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
« Et puis bien sûr, quand je parle des mains, il y a ce qui représente ces années de douleur extrême, lorsque j'ai perdu ma maman, et lorsque j'ai perdu Julia, la Mélanie, l'Hermine, la Marthe, la Julia, sont venues, m'ont dit « Roger, Roger, tu vas te reposer, c'est nous qui allons rester au chevet de ta maman pendant la nuit. » Et à ce moment-là, tu iras te reposer. Et j'allais me reposer sur le foin, dans la grange, parce qu'on n'avait qu'une chambre. Et ces femmes qui étaient au chevet de ma maman, jamais m'ont demandé quoi que ce soit, sauf que lorsqu'elles venaient, elles puissent aller s'asseoir au pied du lit de ma maman. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les miens. Ça, c'est dans ces moments difficiles, douloureux, lorsqu'il y a cette présence, lorsqu'il y a cette affection, lorsqu'il y a cet amour des autres, eh bien, on se sent fort, on se sent presque immortel. Et ma maman, certainement, a été très sensible à cette présence de toutes ces dames, parce que l'habitude voulait que, à ce moment-là, les vers, nous allions veiller chez les uns, chez les autres, de ces familles paysannes, chez les unes, les autres, de ces familles paysannes, et cette présence au chevet de ma maman, au moment ultime de sa vie, je pense que c'est quelque chose qui, pour elle, a peut-être adouci, adouci sa fin, en définitive.
De pauvreté comme il en est encore dans les rapports de mer et les hôtels meublés. Il arrive qu'on pense à des femmes capables de vous grandir en un instant, de vous lancer par-dessus le festin doré des balustrades, vers un monde de rocs et de vaisseaux hantés. Par-dessus le festin doré des balustrades, vers un monde de rocs et de vaisseaux hantés. Les filles de la pluie sont douces si je vais à travers un brouillard infiniment glacé. Leur corps qui se refuse est la noire dentelle qui pend de leurs cheveux comme un oiseau blessé. Dormiront pas dans les chambres offertes à la complicité nocturne des amants. Nous ne dormirons pas dans les chambres offertes à la complicité nocturne des amants. Nous avons en commun dans les cryptes d'Auvergne le hamac déchiré du même bâtiment. Et nous veillons sur nous comme on voit les pleureuses dans le temps d'un amour vêtus de cécité. Oh, genoux dans la gloire obscure des veilleurs, réchauffés de leurs mains le front prédestiné à genoux. Dans la gloire obscure des veilleuses, réchauffés de leurs mains le front prédestiné.
Et puis je voulais parler de la tante Lucie. La tante Lucie, c'était la sœur de mon père. Et la tante Lucie habitait Brive. Et c'est une personne qui m'a beaucoup témoigné de son affection et de sa présence. Lorsque j'étais à l'école supérieure, que j'étais interne, elle venait me chercher. Elle venait me chercher tous les dimanches. Cette tante de Brive, sont venus les jours difficiles pour elle, parce que son fils, Pierrot, a été arrêté, et ça a été des mois très difficiles. Il a été interné à Aïs avant d'être déporté à Dachau, et tout le temps qu'il était à Aïs, la tante de Brive, la tante Lucie, allait toutes les deux semaines à Aïs apporter du ravitaillement à son fils et aux camarades. C'était des moments tragiques, parce que Dachau, Aïs, heureusement que mon cousin Pierrot est revenu de déportation, mais il y avait aussi tous ceux qui étions là-bas à Estavel à passer ensemble ces moments agréables et ceux qui manquaient. Par exemple, il manquait surtout un camarade qu'on appelait Polotti. Polotti, c'était un personnage qui était détaché là-bas par la direction nationale du Parti communiste, qui nous a beaucoup aidé à reconstituer notre organisation dans les 8 ou 10 départements autour de Limoges. Et ce camarade aimait particulièrement venir là-bas à Estavel, parce que le bon repas qu'il y avait, ça le changeait de son quotidien. Et ce camarade Polotti, que j'aimais bien, il y avait quelque chose entre nous de fusionnel. Il s'est trouvé que ici à Lyon, lorsque j'étais en activité, un jour en déplacement à Grenoble, j'ai croisé à nouveau Polotti. On s'est croisé, on s'est regardé, on ne s'est pas parlé parce que les conditions de lutte clandestine nous interdisaient de nous parler à partir du moment où nous n'avions pas de rapport ensemble particulier. Et c'est les femmes toujours présentes, ce sont ces femmes, ces mères de famille. Quand je suis arrivé ici, rue Garibaldi, que cette maman m'a accueilli avec son mari, ils me considéraient un peu comme leur fils, et nous allions le dimanche, je les accompagnais pour aller à la campagne au ravitaillement, j'étais intégré là-dedans, et je suis parti dans les conditions que j'ai expliquées. La Gestapo a fait sa descente là-bas, ils ont tout fouillé, ils ont tout démoli chez eux, et ils croyaient qu'ils avaient affaire à un citoyen ordinaire qui était inspecteur de la Sécanaise, je crois que c'est le métier que je m'étais donné, alors que, suivant la Gestapo, c'était un grand bandit qui était recherché. Et cette dame, je l'ai revue à la Libération, et elle m'a raconté tout ce qui s'était passé après mon départ, et j'avais gardé avec elle des liens très profonds, comme Madame Bon, rue de la Vigilance, et cette femme qui m'a accueilli pendant des mois aussi, au temps de la clandestinité, qui se doutait un peu de l'activité qui est la mienne, dont le fils d'ailleurs a été tué au cours d'un bombardement de Lyon. Vous voyez, ce sont toutes ces femmes toutes ces femmes qui ont beaucoup pesé dans ma mémoire. Il y avait aussi cette personne rue de Créqui, c'était une personne qui m'avait donné la chambre de son fils là-bas, rue de Créqui, que j'ai appelé le nid à punaises, parce que c'était plein de punaises. Et c'est cette même personne qui a pris ma valise lorsque il y a eu une descente de police. J'en ai raconté l'histoire. Eh bien, on n'oublie pas ces personnages, comme je n'oublie pas mes agents de liaison. Je ne peux pas oublier cela. Je ne peux pas oublier celles qui ne sont pas revenues. Anna, Dolores, qui sont mortes en déportation. Marie, qui était cette gosse de 18 ans, violée, fusillée à Lyon. Et puis mes deux autres agents de liaison. Biton, elle s'appelait, c'était son vrai nom, et Odile Réa, qui m'ont fait le plaisir d'être à la cérémonie lorsque j'ai donné mes documents au centre d'études de la résistance à Lyon. Voilà un peu le tableau, et dans tout ce contexte, je voulais parler aussi de la maman de celle qui était mon épouse, de la maman de Marie, de Josiane. Et c'était une personne qui m'a aussi beaucoup apporté. Nous étions jeunes mariés, ils n'étaient pas très d'accord de ce mariage parce que ça s'était passé dans des conditions tout à fait particulières, mais elle a été toujours là, à mes côtés, à m'apporter son affection, l'affection qu'elle a portée à sa fille, l'affection qu'elle m'a apportée à moi. C'était une Italienne. Je me souviens qu'elle rappelait que dans la clandestinité, elle a reçu beaucoup d'Italiens. C'était un peu le 50 rue de la Thibonnière, c'était un peu une maison d'accueil des Italiens, un peu à la dérive, qui cherchaient quelque chose pour se protéger. Ça, c'est la maman de ma femme, et j'en garde une image extraordinaire. D'ailleurs, lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle a été inhumée là-bas au cimetière de la Guillotière, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà un peu tout ça, tout ce regroupement qui se fait, un peu ce bouquet qui s'exerce dans mes souvenirs pour relater ce poids de sensibilité et d'affection qui s'est manifesté à mon égard. Et puis, quand je parle des miens, je voulais parler aussi de mon ami Roucotte. Mon ami Roucotte, je l'ai peut-être relaté, c'est celui avec qui j'avais rendez-vous là-bas, Place Henri, alors que je l'attendais à Grange Blanche. Et Place Henri, il y avait là-bas la Gestapo qui attendait. On avait été dénoncé, je ne sais pas dans quelles conditions. En tout cas, Roucotte se trouvait présent avec un autre de mes courriers aussi, qui s'appelait Francine Sabaté, dont la mère et dont la sœur ont été tuées sous l'occupation, ont été fusillées sous l'occupation. Et alors, bien sûr, Henri Roucotte et Francine Sabaté ont été arrêtés tous les deux. Ils ont été arrêtés tous les deux, et Roucotte avait une enveloppe où il y avait le nom de Maurice, puisque c'était mon nom de la clandestinité. Et il devait remettre cette enveloppe à mon courrier pour qu'elle me soit ensuite remise. Et alors, lorsqu'ils ont été arrêtés là-bas à Montluc, ça a été des tortures épouvantables, à tel point que lui, lorsque il s'est trouvé sur la liste des 120 qui allaient être fusillés là-bas à Saint-Gilles-Laval, on l'a laissé et on a dit de toute façon il va crever ici. Voilà un peu l'image de ses camarades. Et s'ils avaient parlé, on le frappait tant et plus. Qui est Maurice? Qui est Maurice? Il n'a jamais dit qui était Maurice. Et ce Roucotte, c'est celui qui avait été chez moi à voir mon frère là-bas dans la clandestinité. Il y avait quand même des moments d'humanité, même avec les conditions difficiles qui étaient les nôtres. Il a quand même fait ce voyage là-bas pour voir mon frère et lui dire que j'étais bien vivant, parce qu'on venait d'annoncer ma condamnation à mort, alors que c'était une condamnation à mort par contumace. Voilà un peu ces visages qui restent au fond de mes mémoires, avec ces épisodes du combat clandestin que nous avons mené.
ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon air, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il y a d'autres soldats en ville et la nuit monte des civils. Remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur.
Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur un dragon plongea son couteau.
La 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 la.
Et bien sûr, je pourrais parler de tous ceux qui ont, se sont trouvés à mes côtés dans les 12 associations dont, dont je fais encore partie, ou qui ont disparu où j'étais, ceux de la CGT, ceux de la municipalité, tous ceux, hommes ou femmes que j'ai croisés dans, dans ce parcours. Et j'aime cette considération, j'aime ses sentiments à mon égard, j'aime des mots qui ne trompent pas, qui sont exprimés et qui ne trompent pas. Et tous ces personnages se souviennent et ça crée chez nous une atmosphère, ça crée une manière de vivre, ça crée une sorte de sécurité de soi. Et je crois que ma force essentielle dans le parcours qui est le mien, vient de là. Et bien sûr, Bien sûr, je voudrais terminer. J'ai parlé de mon père, j'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de mon tuteur, j'ai parlé de tout ce florilège de personnes qui restent au fond de mon cœur et au fond de ma souffrance. Mais je voulais parler, bien sûr, quand je dis les miens, parler mes enfants et petits-enfants. Bien sûr, j'ai deux enfants, j'ai ma fille Nicole et sa compagne. J'ai mon fils et sa compagne, j'ai mes petits-enfants, j'ai Tristan, j'ai Baptiste, j'ai Justine, j'ai ce plaisir qu'avec Daniel, mon fils, et Daniel, la femme de mon fils, Nicole, Suzanne, ils soient là souvent le dimanche, et pour moi c'est un bouquet, c'est le bouquet final d'une vie où le soleil brille, où le bonheur est présent, et je suis en mesure d'aller rejoindre celle qui est partie depuis 24 ans, lui dire « tu es toujours là, présente dans mes fantasmes, dans mes rêves, une existence de musique et de poésie, un combat pour aller jusqu'à l'inaccessible, un lieu où ciel et la terre se mélangent pour atteindre l'universel. »
Faut-il qu'un jour le chant finisse ? Le temps va-t-il tantôt changer ? Et comme oiseaux se désunissent, se défaire ce cœur que j'ai. Avant l'avenir et l'averse, avant notre histoire effacée, avant que le soleil disperse aux vitres non-nos enlacées. Faut-il qu'un jour le chant finisse? Le temps va-t-il tantôt changer? Et comme oiseaux se désunissent, se défaire ce cœur que j'ai. Une minute, avant que soient partis les gens. Rappelez les joueurs de flûte, jetez-leur des pièces d'argent. Qu'encore une fois retentisse la musique de nos amours, avant qu'au loin s'anéantisse les derniers bruits du dernier jour. Faut-il qu'un jour le chant finisse? Le temps va-t-il tantôt changer? Et comme oiseaux se désunissent, se défaire ce cœur que j'ai. Une minute, avant que soient partis les gens. Rappelez les joueurs de flûte, jetez-leur des pièces d'argent.
Nous arrivons donc au terme de cette 13e émission d'entretien avec Roger Pestouri. Vous avez pu entendre successivement au fil de cette émission « Un homme passe sous la fenêtre et chante » de Louis Aragon, mis en musique et interprété par Jean-François Rémy, un inédit Radio Canu. Ensuite, c'était Jacques Cerisier qui interprétait sa composition « Entre nous ». Puis, vous avez entendu « Le vélo » de Jean Moisiard sur une musique de Hélène Martin, interprétée par Jacques Marchais. Ensuite, Monique Tréhard chantait sur sa musique et sur le texte de Gaston Coutet « Va danser ». Puis c'est le poème de Paul Éluard « Liberté » qui était interprété par Claude Vinci sur la musique d'Yvonne Schmitt. Ensuite, vous avez entendu « Femme d'Ouessant », un poème de René Guicadou, mis en musique par Manu Lanuel qui l'interprétait. Puis c'était le poème de Louis Aragon « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» mis en musique par Léo Ferré et interprété là par le duo Serge et Sonia. Enfin, vous avez entendu le poème de Louis Aragon mis en musique et interprété par Gérard André « Avant l'avenir et l'averse ». À la toute fin de cette série de 13 émissions, nous tenons à remercier très chaleureusement Roger Pastori d'avoir bien voulu nous confier, dans un grand climat de confiance et d'amitié, les souvenirs de sa vie associés aux réflexions et émotions qui leur donnent toutes leurs dimensions. Vous pensez bien que cette expérience d'être rendu dépositaire d'un tel témoignage ne laisse pas indemne son interlocuteur. Et je remercie très fort Roger de m'avoir offert cette expérience humaine et radiophonique unique et inédite. Les heures que j'aurais passées à le réécouter et à chercher les illustrations sonores en adéquation avec son témoignage me sont aussi des moments de vie intense dont j'ai essayé de donner profit aux auditeurs. Je remercie également bien sûr tous les auditeurs qui ont bien voulu suivre cette série d'émissions qui s'est étalée sur presque une année, en espérant que, pour eux aussi, ces moments auront été des moments de vie riches et intenses. Enfin, pour terminer, je dirais que nous avons d'autres projets radiophoniques avec Roger, dans une démarche moins intime et plus historique et artistique. Vous pourrez donc le retrouver à nouveau sur nos ondes, mais ça, c'est pour l'année prochaine. Bonsoir.
Chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you.
il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant clair. C'est pas de la rengaine, à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant clair. Le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque. On se bise.